l'imposition de mort terrible. Et c'est bien ce que nous vivons. On nous impose des lois scélérates. Mais après ces lois scélérates, on nous impose une négation de notre nature humaine. Une autorité dévoyée de ce sens, dans ce sens, soyez-en sûrs, mes frères, il ne résistera pas longtemps. Parce qu'elle a introduit en elle-même ce ver destructeur, puisqu'elle ne peut se faire respecter, puisqu'elle ne respecte pas elle-même, elle en vient à se dénier elle-même. Et un jour viendra où, une fois à terre, il ne lui restera plus que soit se convertir, soit abandonner un pouvoir illusoire. Car, je le répète, à travers cette loi naturelle qui est fondamentale au bien commun, eh bien nous remontons forcément à Dieu créateur. Et c'est pourquoi je vous disais que ce bien commun appartient à la loi naturelle. Il est une expression de la loi naturelle, il est une expression de notre nature elle-même. Et c'est bien pourquoi il participe les fonctions de cette loi naturelle que toute autorité, je le répète, doit impérativement respecter. La loi de Dieu créateur est ainsi gardienne de notre nature humaine. Pour la mettre, la garder, la conserver, non pas simplement dans sa droite ligne, mais dans ce qu'elle est, dans ce que Dieu veut qu'elle soit. Mais, concluons sur ce bien commun, vous comprenez bien que le bien commun tel que l'Église nous enseigne, nous le donne, il prend l'homme dans son intégralité. Je veux dire par là que, bien sûr, l'Église s'intéresse au bien commun naturel. Il est clair que l'Église demande à une société d'assurer l'ordre et la justice pour que, comme le rappelait le pape Pie XII, chaque famille, chaque individu puisse vivre dans la tranquillité, dans la paix, dans la régularité, dans l'ordre. Et particulièrement quant à la famille, s'y attaquer aujourd'hui, s'y dénier, il est nécessaire pour les familles d'avoir cette tranquillité, cette paix de l'ordre. Oserais-je vous rappeler, chers pèlerins, chers frères, j'allais dire, que c'est vous, les parents, les premiers responsables de l'éducation. Je dis responsable, pas propriétaire, car seul Dieu est propriétaire de l'âme, puisque c'est lui qui l'a créé. Mais parents vous a donné, pas plus exactement, Dieu vous donne par le sacrement du mariage, c'est plus qu'une délégation, c'est un pouvoir. Le pouvoir d'éduquer les enfants. Et vous êtes, je le répète, les premiers éducateurs. Certes, nous savons bien qu'il y a tout autour les différentes sociétés qui existent, je vous parlais de scoutisme tout à l'heure, de l'école, qui sont toutes là pour venir conforter la famille, l'aider parce qu'elle ne peut pas donner, parce que tel n'est pas son rôle. La famille n'est pas une société parfaite, au contraire de l'Église et de l'État, en principe, de l'État. Mais la famille a besoin de ces micro-sociétés, mais qui, justement, lui permettent à la famille de se développer et d'apprendre le bien commun aux enfants. Et c'est pourquoi, vous, parents, votre rôle est nécessaire, votre rôle est indispensable, votre rôle est irremplaçable. Nul prêtre ne vous remplacera. Nulle autorité d'État n'a le droit de vous remplacer. Vous êtes des parents, parents. Vous faites monter les enfants. Oui, l'Église enseigne aussi que les prêtres sont là pour aider, certes, pour conseiller, oui, pour parfois subvenir lorsque les catastrophes font que l'enfant se retrouve seul, peut-être, mais c'est de l'ordre de l'exceptionnel. Dans l'ordre ordinaire de la loi naturelle, les parents sont les premiers. Et ce bien commun ne s'arrête pas. C'est là justement cette richesse même, non pas simplement de la doctrine de l'Église, mais de ce que le Christ est lui-même. Je l'ai dit, l'autorité du Christ vient de ce fait, il est Dieu fait homme. Participant à notre humanité, ayant pris notre humanité, il sait, il connaît mieux que quiconque, et il sait surtout d'une science parfaite, ce qui est nécessaire pour le respect de cette loi naturelle. Et il montre que la loi naturelle elle-même ne peut être appliquée totalement que si on remonte à l'ordre surnaturel. L'homme créé avec un corps, un esprit qui est fait pour contempler celui qui lui a donné l'esprit, celui qui lui a donné l'âme. Et au pape ces dernières années, ô combien l'Église depuis tout le temps finalement a insisté sur ce point, celui ou celle qui ne prend pas en considération ce destin surnaturel de l'homme, ce destin d'être pauvre Dieu, perd complètement la notion même de l'homme. En niant la divinité, on nie l'humanité. Si vous niez la divinité de Christ, vous le savez, le sacrifice de Calvaire ne représentera rien. C'est un homme qui est mort sur une croix. Pourquoi ? Par gentillesse, par affection pour nous. Si vous niez l'humanité qui est mort sur la croix, personne. Alors que reste-t-il ? Il ne reste qu'une solution, c'est évidemment l'incarnation, celle que Dieu a voulu. Dans l'unité des deux natures, dans l'unité personne, nature humaine, nature divine. La nature humaine offre, meurt, s'offre, la nature divine offre à Dieu. Et ce qui est humain devient totalement divin. Ce sacrifice qui est incompréhensible pour les juifs qui le regardent, qui s'en moquent, ne se rend pas compte que tout d'un coup, c'est la divinité même qui a pris, qui a rendu parfait totalement ce sacrifice, et qui ainsi passe au-dessus du temps, des lieux, des races, des personnes. Eh bien, si nous, le bien commun, ne prend pas en compte cette dimension de l'homme, que va-t-il apporter ? Je vous disais ce matin, certains d'entre vous, la facilité, les bienfaits matériels, la télévision, la voiture, tout. Mais au bout du compte, qu'y a-t-il ? Lorsque le Saint-Écriture dit que l'on n'emporte pas dans son cercueil les biens d'ici-bas, ô combien cela est réaliste et ô combien cela est vrai. Mais justement, le bien commun nous apprend à nous servir de ces biens matériels, justement par nous-mêmes, bien sûr, mais pour l'attention, par l'attention portée aux autres, que ce soit d'abord dans notre propre famille, charité bien ordonnée, commençant par soi-même, et puis que ce soit tous ceux qui sont autour, lorsque l'Église, comme on vous l'a rappelé ce matin, demande que le carême ce soit aussi une période particulière pour faire l'aumône. Ça n'est pas pour rien. Ça n'est pas pour rien, c'est pas simplement le fait de l'aumône. C'est là aussi s'apercevoir que nous sommes tous, non pas simplement de la même humanité, nous sommes tous nés du même Père créateur qui nous a donné à tous cette âme personnelle. Et que lorsque le Christ nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est d'abord parce que j'aime Dieu que j'aime mon prochain. À partir de ces quelques éléments, je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Et vous pensez bien que vous devinez les qualités nécessaires pour un chef d'État. Je ne veux pas toutes les parcourir, ça serait trop long. J'en ai retenu que quelques-unes, mais qui, je crois, vous permettront de comprendre combien l'actualité nous oblige à les rappeler. D'abord, je rappelle la phrase de Christ à Pilate. Lorsque Pilate s'étonne qu'il ne lui réponde pas, il lui dit, mais savez-vous pas que j'ai le pouvoir, tout pouvoir sur vous. Et vient cette phrase extraordinaire, rapportée par Saint Jean, chapitre 19, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Mes frères, c'est une phrase à méditer. Je la verrais bien à la place d'une certaine devise sur le fronton de nos mairies, de nos palais nationaux, de l'Élysée ou d'autres lieux encore. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Tout pouvoir, mes frères, vient de Dieu. Et le chef d'État qui nous dit, vous êtes sûr qu'il va devenir un despote. Pourquoi ? Parce que l'autorité, comme je vous l'ai dit, est liée au pouvoir même de Dieu. Et dans la reconnaissance de cette autorité qu'il tient de Dieu, il se rappelle qu'il n'est pas propriétaire de cette autorité, qu'il n'en est pas le dépositaire absolu, que s'il a été choisi, c'est peut-être pour certaines compétences, mais pas pour son propre service. Pour le service du bien commun, pour le service de ceux qui ont besoin de ce bien commun. Et ainsi, c'est vrai que l'Église reconnaît toute forme de pouvoir, pourvu que, ce pouvoir respecte la loi naturelle. Ou peut-être, dans l'Église, démocrate, j'allais dire démophile. On peut être monarchiste. Oui, c'est pas bien. C'est pas du tout bien. On peut être même aristocrate. Peut-être terrible si elle ne respecte pas le droit naturel. Une république peut-être épouvantable si elle ne respecte pas le droit naturel. Tout dépend de ses principes. S'il n'y a pas à la base ce principe de la reconnaissance du pouvoir qui vient de Dieu, déjà c'est l'erreur fondamentale. Et c'est bien ce qui nous sépare de tant et tant de théories sociales, politiques, mais qui ne correspondent pas justement à cette réalité du bien commun. Donc la domination peut être humaine, bien sûr. Nous avons le droit de choisir ou de diriger, ça n'est pas interdit. Mais à la condition expresse qu'il se rappelle que ce pouvoir, il le tienne, il vient d'en haut. Cela peut être manifesté plus ou moins expressément, qu'importe, mais la réalité est là, seul Dieu a donné cette participation au pouvoir pour le bien des hommes. Et donc, l'autorité est d'abord un service. Ça n'est pas, je le répète, une propriété. Ça n'est pas une manière de se faire valoir. Ça n'est pas une course au succès. C'est d'abord et avant tout un service. Le service du bien commun, le service de ceux qui participent à ce bien commun, qui ont besoin de cette autorité, d'organisation des règles de vie commune et aussi de ce qui est nécessaire parfois à l'autorité, c'est-à-dire de sanctionner les manquements à cette règle pour qu'il y ait véritablement paix dans l'ordre. Et c'est pourquoi l'autorité n'est pas à chercher pour elle-même. Le pouvoir pour le pouvoir, cela suffit, mes frères. C'est ce qui nous tue. Le pouvoir pour le service, oui. Et je dis cela à tous les niveaux. Que penseriez-vous d'un chef de troupe qui voudrait impérativement être chef de troupe et qui n'accepterait pas de ne pas l'être? Cela traduit, je dirais, une certaine recherche de soi-même, une envie. Et comme au Moïse Scout, il m'est arrivé. De dire à certains non. Non, tu ne peux pas l'être. Tu ne peux pas l'être parce que je vois bien que tu te recherches toi-même. Tu ne recherches pas le lien, écoute. Tu ne recherches pas le lien de la troupe. C'est pourquoi, une fois de plus, seule l'autorité peut donner ce pouvoir. L'autorité légitime. Et c'est pourquoi cette même, ce service, finalement, ne peut s'exercer que par la justice et la miséricorde. De la même manière que le Christ nous a donné, par sa miséricorde, c'est-à-dire les sacrements, les moyens de correspondre à sa justice, c'est-à-dire de parvenir à la sainteté, de la même manière, le pouvoir, l'autorité, doit posséder cette miséricorde, cette justice. Mais d'abord, cette justice, c'est-à-dire, comme le rappelle saint Augustin, la paix dans l'ordre, c'est le rôle premier, fondamental d'une autorité, puisque par les suites du péché originel, par les tempéraments nationaux déroulés, il y a toujours des possibilités de disputes, etc. Eh bien, l'État est là, l'autorité est là, sous quelque forme que ce soit, pour faire que cela ne dégénère pas en une grande estime. Vous le savez, mes frères, la pire guerre n'est pas la guerre internationale, c'est la guerre civile. La guerre civile est épouvantable. Parce qu'il n'y a plus à ce moment-là, non seulement il n'y a plus la loi naturelle, mais en plus, c'est l'individualisme absolu qui s'exprime. Et donc, on n'a plus aucune idée même de cette paix de l'ordre. On n'a plus que l'intention de lutter pour une idéologie qu'on veut imposer et les autres de lutter pour une autre idéologie qui s'y oppose. La guerre civile, je le répète, est la pire des choses. C'est bien pourquoi le grand rôle de l'autorité, c'est la paix intérieure. Une solème a sorti il y a bien longtemps déjà, je m'en suis d'ailleurs inspiré de ce petit mot, des textes remarquables regroupés sous le terme de la paix intérieure des nations. La paix intérieure des nations. Cette paix intérieure est absolument indispensable pour que justement on ne dégénère pas sur une guerre internationale comme hélas nous en avons eu trop souvent l'expérience dans notre histoire. C'est bien pourquoi la justice est indispensable. Mais dans cet exercice de la justice, l'autorité se souvient de sa propre faiblesse et donc sans excuser. Mais en comprenant la faiblesse de l'autre, lui permet de se redresser, lui donne les moyens de se redresser. Voilà la véritable autorité. Alors, ma conclusion, elle est simple. C'est Saint-Louis, bien sûr. C'est Saint-Louis. Ne faisons pas de Saint-Louis tout de suite un homme parfait dès son plus jeune âge. C'est souvent la tentation, vous voyez, et dans ce que, justement, aussi grand personnage s'est présenté dans notre histoire nationale et dans notre histoire tout court et dans l'histoire de l'Église, de dire, bah, c'est promis, babulissimement, était ce d'un saint. Non. Pour cela, il faut relire Joinville, le fameux chroniqueur, l'ami de Saint-Louis, qui ne cache pas que le roi avait quelques défauts. Il raconte quelques faits dans lesquels, effectivement, on voit Saint-Louis parfois prendre des colères un peu exagérées, ou être de justice vraie et terrible, refusant justement l'exercice de la miséricorde parce qu'il l'estime que ce n'est pas le moment. Il y a donc, comme cela, Joinville raconte que, au retour de la croisade, son frère d'Anjou était dans la nef et, au lieu d'être avec Saint-Louis, de faire pénitence, car on était encore dans le carême, jouait, je ne sais plus trop quel jeu. Et le roi demande à Joinville, mais mon frère, où est mon royal frère? Ah si, il est en train de jouer Saint-Louis, par le roi d'expression, pique une colère, et on voit l'échiquier, je crois, et tout le jeu à la main, en disant qu'on joue pas. Joinville, un peu surpris, majesté, se dire, allons, c'est contraire à mes principes. Mais il avait des raisons pour cela. Il détestait ce jeu de hasard, il détestait ce qui lui semblait s'opposer à la loi de Dieu. Mais tout cela pour dire, voyez-vous que, au fond, je crois que la plus grande sainteté de Saint-Louis, c'est d'abord d'avoir su reconnaître lui-même ses faiblesses et ses erreurs, parfois. Mais surtout, sa grande sainteté, c'est d'avoir laissé Dieu construire toute sa vie, sa sainteté. Et une sainteté d'homme, une sainteté de roi. D'homme, parce que, comme nous tous, Saint-Louis est une âme aimée infiniment de Dieu, créée par lui, mais dans un but, je dirais, dans un espace tout à fait particulier, qui est celui d'être roi de France. Donc, revêtu d'une part par le sacre de Reims, d'autre part par l'autorité qui est attachée à cette fonction, revêtu d'une puissance tout à fait extraordinaire. Et si l'on pense que s'il fut facile pour Saint-Louis, à Saint-Louis, d'exercer ainsi ce pouvoir, je crois qu'on se trompe beaucoup. Mais qu'au contraire, c'est parce qu'il avait cette unité avec le Dieu que peu à peu, il a grandi dans ce travail d'homme d'État. Et je distinguerai rapidement trois grands aspects, au fond, de cette royauté de Saint-Louis. Le roi justicier et pacifique. Le roi justicier, tout le monde connaît, bien sûr, Saint-Louis, sous le chef, en train de rendre la justice. Déjà, Joinville en témoigne, disant que ce n'était même pas sur un siège, qu'il était assis, mais par terre, là, dans l'herbe, et qu'il faisait venir à lui les pauvres, les malheureux, les oubliés, et qu'il leur rendait des lignes strictes de justice. C'est-à-dire que si leur cause était mauvaise, leur cause était mauvaise. Et si leur cause était bonne, leur cause était bonne. Autrement dit, Saint-Louis ne s'attachait pas aux formes extérieures. Saint-Louis ne s'attachait pas, ou qu'en dira-t-on, Saint-Louis ne s'attachait uniquement à l'intérêt, à l'âme de la personne. Et c'est cela qui en a fait un justicier parfait. Et c'est cela aussi qui en a fait un pacifique, de manière extraordinaire, parce qu'au fond, tout le but qu'a poursuivi Saint-Louis, en travers ce bien commun qu'il voulait apporter à ses sujets, c'était le salut de leur âme. C'était cela qu'il désirait avant toute chose. Le salut de leur âme. Comme Saint-Louis était persuadé que son propre salut dépendait du salut de ceux qui lui étaient confiés. Et comme il le disait très souvent, c'est à Dieu d'abord que je devrais rendre compte. Le roi guerrier aussi. Ah oui, Saint-Louis a fait la guerre. Mais oui, mais vous savez. Et pourquoi a-t-il fait la guerre? Il a fait la guerre parce que la cause qu'il voulait défendre était celle de Dieu. Ce fut, bien sûr, les croisades. Mais ce fut aussi à l'intérieur du royaume de France, ce qu'il estimait nécessaire pour conserver ce qui lui avait été transmis, et donc il ne s'estimait pas propriétaire. Il était héritier d'une lignée déjà. Et cet honneur de la lignée lui faisait faire des actes nécessaires, non pas, je dirais, si on voit toute sa justice, qu'il provoque la guerre. Mais si on l'avait provoqué, alors il répondait. Et Joinville, le même, toujours, nous dit que le roi Saint-Louis était un terrible et vaillant guerrier, qu'il n'hésitait pas à se mettre dans la mêlée lors des combats, il ne restait pas là à regarder les choses. Roi guerrier, parce que, il a compris, que si la guerre, il le dira lui-même à son fils, à Testament, la guerre est terrible, qu'il faut tout faire pour l'éviter, tout, pour le bien du sujet. Mais que parfois, dira-t-il, le bien du sujet suppose justement cette fermeté d'âme pour faire que, pour empêcher que, malheureusement, les sujets en soient grevés. C'est pourquoi, voyez-vous, oui, le roi guérit, absolument. Et puis le roi des œuvres. Et je crois que chez Saint-Louis, outre sa vie, je dirais, très spirituelle, très, très forte, avec combien de fondations saintes il a fait, combien de monastères, d'œuvres, de charité, mais on sait moins s'il ne s'en rendait pas dans cette vie de prière, cette vie de pénitence qu'il menait, dans l'exercice même de son pouvoir, pour, disait-il justement, lui permettre de l'exercer au mieux, avoir toujours ce regard de divinité, disait-il, et je trouve l'expression extraordinaire, je veux avoir ce regard de Dieu sur les affaires du royaume, pour que je les exerce comme Dieu, premier roi des Francs, veut qu'elles soient exercées. Je ne suis que le transmetteur. À travers ces trois aspects, il y en aurait bien d'autres. Mais il me semble les plus importants, justicier pacifique, guerrier lorsque nécessaire, roi des œuvres. Eh bien, vous avez mes frères là, je crois, le dessein nécessaire que nous attendons, le chef nécessaire qu'il nous faut et qu'il nous faut demander à Dieu. Car si l'Église a canonisé sa vie, je le répète, elle n'a pas canonisé que l'homme, elle a canonisé le roi, c'est-à-dire qu'elle a canonisé l'homme du pouvoir. Elle a canonisé celui qui a exercé le pouvoir. Et donc, cela veut dire que Saint-Louis a bien cette sainteté d'homme, je le répète, mais aussi de roi. C'est pourquoi, eh bien, la première chose à faire, c'est bien sûr, par la prière, demander ce chef nécessaire pour la France, pour notre pays. Car, ce sera ma conclusion, il ne s'agit pas simplement que la France demeure catholique, il faut que la France rende service à la catholicité. Et par là, rendre service au premier roi des Francs de Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.